Et bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Et bienvenue dans cette nouvel épisode des aventures du polar. Et nous allons cette fois-ci vous parler, en gros, de livres qu'on a bien aimés, de livres qu'on a beaucoup aimés, de livres qu'on a bien aimés. Et peut-être, si on a le temps, Jacques, tu nous parleras d'une bande dessinée.
Oh oui, une bande dessinée ou un roman jeunesse.
Alors, moi, je vais changer un petit peu de genre. Enfin, non. Je vais toujours vous parler de polar, mais pour une fois, j'ai décidé dans cette émission de ne vous parler que de lectures, on va dire, distrayantes. Dans le sens où chacun des livres dont je vais parler va vous faire rire ou sourire. Le premier, d'ailleurs, l'éditeur le présente comme un roman trouvé dans un Kinder Surprise. Alors ça, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais n'empêche que ce roman, qui s'appelle... Misty, et qui est aux éditions Baleine, avec une très jolie couverture et puis une star, je crois, des années 30 du film noir en couverture. Ce livre est de Joseph Incardona. Et quand on parle de Kinder Surprise, c'est vrai que le récit, je vais avoir un petit peu de mal à le résumer. Cependant, au fur et à mesure que je vais évoquer certaines scènes, pas beaucoup, hein, mais quelques-unes, je suis sûre qu'il y en a certaines qui vont vous rappeler quelque chose. D'abord, on a un détective à la ramasse. Ça, on en a plein, que ce soit dans les films ou dans les romans. Il s'appelle Samuel, mais évidemment, tout le monde l'appelle Sam. Bon, on pense un peu à Sam Spade, prénom plutôt mythique. Son nom, il s'appelle Glockenspiel. Alors, pour ceux qui ne seraient pas germanophiles, je préciserai qu'en allemand, ça veut dire carillon. Carillon de la catégorie des idiophones. Ça ne s'invente pas.
Très utilisé dans la musique rock progressive, dans les années 70.
Là, on est dans un polar des années 2000, donc ça ne s'invente pas. Si, évidemment, quand on s'appelle Joseph Incardona. Quand ce raté, ce détective à la ramasse a enfin un client, il traverse la ville pour se voir proposer 100 000 $. Mais avant, il va avoir rencontré ni plus ni moins que l'ange Gabriel. Bon, d'accord, là, l'ange Gabriel, il roule en Ferrari Dino. Quand il arrive, il y a évidemment une femme fatale. Mais là, elle est affublée d'un poumon d'acier. Donc, voilà, comme vous le voyez, on est chaque fois un peu à côté, on est dans l'hommage, et puis chaque fois, on est à côté de ce qui veut être un hommage au roman noir, style un peu livre magnifique, les cadavres, n'ont pas de costard. Donc, Sam, le détective de ce roman, va donc tenter d'enquêter dans une ville mythifiée. On est dans une époque, le détective a peut-être un chapeau mou, mais c'est l'époque moderne. Et puis, dans le livre et dans la ville, on y croise Dustin Hoffman, Edward Bunker, un célèbre auteur américain de romans noirs. Et puis, que l'on pêche ses références dans le cinéma ou dans le roman, eh bien, ça va être... Une foule de références. Je dirais que c'est quand même pas, on va un peu modérer, c'est certes pas le meilleur roman noir du printemps, mais on passe franchement un bon moment en se rappelant tel ou tel écrivain ou tel roman, en se baladant dans cette ville à la fois réelle et totalement inventée. Le suspense, bon, on va dire qu'il est pas insoutenable. Et même parfois, on pense un peu au film Le Grand Sommeil, quant à la compréhension de l'histoire qui est quand même un peu embrouillée. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, Le Grand Sommeil, c'est un film noir mythique où la majorité des gens, y compris le scénariste, avouent n'avoir pas compris grand-chose. Mais en tout cas, l'amateur de polar aura vraiment du plaisir à lire ce petit opus que je qualifierais d'assez improbable. J'ai tiqué quand même sur une chose, c'est quand même un petit roman au niveau des pages, hein. Il fait 186 pages. Voilà, je vais le dire, 16 € pour un roman comme ça, ça me paraît. Voilà, en ces temps de crise, je tique un peu sur le prix. Encore une fois, on va passer des moments un peu plus gais que d'habitude avec les romans dont j'ai envie de parler ce soir. Prochain roman dont je vais parler, déjà vous allez voir le titre. Un témoin qui a du chien. Ça remonte quand même un peu la catégorie. Quoique dans l'histoire, effectivement, il y a bien un chien qui est témoin du crime et qui permettra d'aider à résoudre l'enquête. C'est dans la collection Poche du Masque, vous savez, l'ex-collection mythique jaune, qui est depuis, je crois, à peu près un an, relookée
en gris
et plutôt
d'agréable
façon. L'auteur de ce roman, je rappelle le titre, Un témoin qui a du chien, il s'appelle Jeffrey Cohen. L'enquêteur, parce qu'évidemment, ici, dans ce genre de roman, il y a un enquêteur qui va revenir dans d'autres aventures, qui a déjà été dans d'autres aventures, c'est un écrivain, Aaron Tucker. Tiens, je parlais de l'hommage et de la référence. C'est vrai que Tucker Co, c'était un des pseudos de Donald Westlake. Mais ben, peut-être que j'invente un peu. Voilà, Aaron Tucker, c'est un écrivain, c'est pas un écrivain de grands romans, il est pas une vedette, et donc il doit vendre des scénarios pour faire vivre sa famille. Comme dans la majorité de ce genre de polar, il faut qu'il ait une singularité. Ici, c'est son fils qui souffre du syndrome d'Asperger. Alors, deux mots sur ce syndrome. C'est une maladie qui, en gros, est une forme d'autisme particulier et qui fait que on a en face de soi des adolescents ou des adultes qui sont très étonnants, peu de communication, mais une analyse et une intelligence souvent très très fine. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on va lui confier une enquête, puisqu'on va lui demander d'aider à prouver qu'un jeune ASP, comme c'est dit, donc un jeune atteint du syndrome d'Asperger, est innocent d'un crime. Pas facile d'ailleurs, car tout l'accuse, l'arme du crime, il avait du sang de la victime, enfin. Bah. Mais Aaron Tucker et l'auteur ont plus d'un tour dans leur sac, et ils vont donc pouvoir ensemble résoudre l'enquête. Je dis ensemble parce que c'est vrai que on a vraiment l'impression que l'écrivain, il est tout le temps par-dessus l'épaule de son personnage principal et il s'en moque régulièrement. Autre enquête dont il est chargé, enfin, autre investigation, il est chargé par son mécano favori de trouver qui sabote son travail, celui du mécano, hein, pas celui de l'enquêteur. Car à chaque fois qu'il est appelé pour réparer un véhicule, eh bien, il répare, il part, il prévient le propriétaire du véhicule, et il y a quelqu'un qui passe derrière et qui remet la panne, qui remet plus exactement le véhicule en panne. Donc voilà, il va se balader d'une enquête à une autre, d'un mystère à un autre. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas l'enquête qui va nous faire tourner les pages, le suspense et n'est pas insoutenable, mais c'est enlevé, plaisant, tout en humour potache et autodérision. Ça évite d'ailleurs beaucoup le didactisme sur la maladie d'Asperger, tout en étant très bien documenté. Il n'y a pas d'apitoiement qui paraîtrait certainement politiquement correct. Donc ça, c'est plutôt des bons points. On sourit souvent. Encore une fois, le suspense n'est pas le moteur de la lecture. Mais malgré tout, on a du mal à l'interrompre, cette fichue lecture. Et on prend plaisir à partager la vie de cet écrivain. En particulier, ses démêlés avec le beau-frère qui sont vraiment haut en couleur. Et puis on est non pas dans une ville mythique comme Boston, Los Angeles ou encore Washington avec par exemple les romans de Pelecanos, mais on est dans une petite ville tranquille, un coin glacé du New Jersey, et on prend plaisir à partager les jours assez mornes finalement de ce petit village. Voilà, alors je crois que j'ai oublié au début de citer le traducteur, qui est en fait une traductrice. Donc, un témoin qui a du chien a été traduit par Claire Breton.
Voilà, et ça paraît en poche, donc, et c'est un inédit, donc
oui,
c'est quand même...
Oui, ce qui est quand même à remarquer. Puisque très souvent, les collections de poche font des rééditions entre 18 mois et 2 ans après la sortie en grand format. Et là, c'est un inédit, et c'est au masque. Jacques, un petit peu de musique ?
Un petit peu de musique. Une chanson des Stones, reprise par un groupe de hard rock californien. Mais là, c'est dans un disque acoustique. Et le morceau des Stones, le groupe s'appelle Tesla. Et le morceau s'appelle Mother Little Helper. What a drag is getting out. The same, they just need something today to calm her down. And no, she's not really ill. There's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper. And she gets her on the way to through her busy day. Things
I've took the rib today. I hear every mother say, cooking fresh for her husband, such a drag. So she buys her instant cake, and she burns her frozen steak, and goes running for shelter as her mother's new helper. And she gets her out of way, gets her through her busy day. Oh, Dr. Please, Mona, please, outside the door, she took one more. What a drag it is getting out. Then just sound the same today. I hear every mother say, they just don't appreciate the two guitar. They're so hard to satisfy. You can drink without your mind and go running for the shelter of her mother's little helper and forgets her through the night. Helps you minimize her flight. Oh, Dr. Freeze, Laura Freeze, outside the door, she took for more. What a drag it is. Mother say, the pursuit of happiness is such a bore. If you take some more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of her mother's new helper and forgets to run away.
Et non, et non, ces applaudissements ne sont pas pour vos animateurs favoris, mais bien pour les Rolling Stones.
Enfin, plutôt le groupe Tesla, mais bon.
Voilà, mais aussi un peu. Bon, ne quittez pas, vous êtes toujours sur Onde Noire, mais vous allez entendre une voix inconnue vous susurrer quelques mots, quelques phrases du prochain livre dont Jacques va vous parler.
Fantôme, Jones Beu. Les cris l'appelaient. Tels des lances sonores, ils transperçaient tous les autres bruits du soir dans le centre d'Oslo, le ronronnement régulier de la circulation sous les fenêtres, la sirène lointaine qui montait et descendait, les cloches de l'église qui venaient de se mettre à sonner. C'était maintenant, à la tombée de la nuit, et éventuellement juste avant le lever du soleil, qu'elle partait en quête de nourriture. Elle promena son nez sur le linoléum crasseux de la cuisine. Enregistra et classa à toute vitesse les odeurs en trois catégories. Comestibles, menaçantes ou sans intérêt pour la survie. Le parfum âcre de la cendre de tabac. Le goût doucereux et sucré du sang sur un coton. L'exhalaison amère de la bière dans une capsule de Ringness. Des molécules de soufre, de salpêtre et de dioxyde de carbone s'élevaient d'une douille métallique vide, adaptée à une balle de 9 mm, appelée aussi Makarov, d'après le pistolet pour lequel le calibre avait été conçu. La fumée d'un mégot encore chaud, à filtre jaune et papier noir, frappé de l'aigle impérial russe. Le tabac était comestible. Et là, des effluves d'alcool, de cuir, de graisse et d'asphalte. Une chaussure. Elle la flaira et constata qu'elle se laissait moins facilement manger que le blouson dans le placard. Celui qui sentait l'essence et l'animal en décomposition dont il était fait. Son cerveau de rongeur se concentra donc sur la façon de franchir l'obstacle devant elle. Elle avait essayé par les deux côtés, tenté de glisser son corps de 25 cm et de moins de 500 grammes. En vain. L'obstacle gisait sur le flanc, dos au mur, et l'empêchait d'accéder au trou menant à son nid et à ses 8 nouveau-nés aveugles et nus qui réclamaient de plus en plus bruyamment ses mamelles.
Voilà Jacques, donc on sait déjà le titre et le nom de l'auteur.
Voilà, donc je le répète pour ceux qui n'auraient pas été attentifs, le roman s'appelle Fantôme au singulier, c'est un roman de Jones Beu qui vient de paraître chez Gallimard à la série Noire, et en même temps, je ne sais pas si c'est une nouveauté qu'ils le font, mais en tous les cas, ils viennent paraître exactement en même temps, en version audio, lue donc, chez audiotheca.fr, on peut le télécharger en
ça,
MP3.
C'est une excellente nouvelle, ces audiolivres.
Voilà, vous avez même les deux premiers chapitres à écouter si vous voulez vous faire une idée du roman. Donc en fait, ça fait quand même bien 2 ans qu'on avait quitté Ariol, le flic héros de Nesbeu, en bien mauvais état, après sa chasse au léopard, dans le roman qui porte le même nom. Un roman qui faisait 780 pages, je vous rappelle, et qui vient d'être édité d'ailleurs en folio policier. Et donc Ariol avait quitté la police à la fin du roman, meurtri dans sa chair et dans son âme, pour partir à Hong Kong, travailler comme recouvreur de crédit. Recouvreur de crédit, vous savez, celui qui se présente chez le débiteur et qui le convainc de payer ce qu'il doit.
D'une manière ou d'une autre.
D'une manière ou d'une autre. Et bien là, au début de ce roman, juste après le passage que vous venez d'entendre, donc avec le rat qui explore son petit coin de vie, le voilà Ariol qui revient dans sa ville adoptive. Il abandonne sa nouvelle situation, sa belle maîtresse, son alcoolisme enfin guéri pour rentrer au bercail à Oslo, car il apprend que l'on a mis en prison pour meurtre son fils adoptif, Oleg, le fils de son véritable amour, le seul peut-être à part le Jim Beam, la belle Raquel. Il est plus flic, puisqu'il a démissionné, mais il va quand même demander le droit, la possibilité d'enquêter à son ex-boss. Je pense que même s'il avait dit non, il s'en serait passé. Parce qu'en fait, il veut prouver à tout le monde, se prouver à lui-même que Oleg n'est pas coupable. Et Oleg, c'est plus le petit garçon qu'il a connu, qu'il a quitté. C'est devenu un jeune homme, mais aussi, malheureusement, un junkie. Et c'est donc dans le milieu de la drogue que vont se tourner ces investigations. Car en fait, une nouvelle drogue est apparue dans la capitale norvégienne et elle fait des ravages. Un trafic auquel Oleg semble être mêlé. Et donc Ariol, il retrouve sa ville Oslo qui a bien changé. Raquel qui est avec un autre homme. Heureusement, il lui reste quelques amis. Amis IES, fidèles. Une dans la police, une derrière le comptoir d'un bar. Voilà, et donc après, vous allez donc 500 pages. Et ce qui est la force de Nesbeu, c'est qu'en fait, il te prend au début de l'histoire, dès les premières pages, et en fait, il te lâche pas avant les 540 suivantes. On n'a pratiquement pas la possibilité d'arrêter le livre, sauf pour dormir un petit peu quand même.
Oui, quand même.
Voilà, et c'est exactement les thrillers que l'on aime. Du vrai thriller avec du fond, du sens, de l'action, de l'intrigue, mais aussi des personnages qui sont vrais bien que de fiction. Car en fait, Nesbeu ne se contente pas de nous raconter une intrigue, une enquête qui va devenir, on le sent, de toute façon, avec Nesbeu, c'est connu, une chasse à l'homme. Il nous raconte aussi la déliquescence de la société norvégienne, dont on s'aperçoit qu'elle n'est peut-être pas si différente de la nôtre. Drogue, flics ou politiques corrompus, marginalisation d'une partie de plus en plus grande de la nation. Et même l'amour, parce que Nesbeu, c'est un grand romantique, même l'amour qui pourrait être une solution, une échappatoire, ne suffit malheureusement plus pour survivre à ce déclin. J'ai l'impression...
Va-t-il y avoir un prochain...
J'ai l'impression que John Nesbeu n'était pas dans une grande phase d'optimiste quand il a écrit ce livre. Mais il faut bien dire que ça rend son propos encore plus pertinent et encore plus efficace, en tous les cas, bien plus efficace que le Léopard, peut-être parce qu'il y a 200 pages de moins, donc il a concentré...
Il a resserré
son écriture. Donc, en fait, 3 mots, un grand livre.
Ça fait bien 3 mots, voilà. Je confirme.
Je voulais juste préciser, puisqu'il me reste quelques secondes avant les informations, que celui-là est traduit du norvégien, donc, par Paul Dott.
Non, c'est un nouveau venu, me semble-t-il.
En tous les cas, c'est pas celui qui traduisait avant. Donc, je vous laisse avec les informations et à tout à l'heure.